L'armurerie stéphanoise est surtout connue grâce au passé de la manufacture d'armes, l'entreprise Manufrance. Elle a notamment fabriqué jusqu'en 1985 des armes de chasse et de tir. Elles étaient vendues par correspondance dans le monde entier.
Malgré un nom très anglo-saxon, le flashball est pourtant une arme made in France. C'est à Saint-Étienne, capitale française des armes, qu'elle est fabriquée. Chez Vernet Caron, l'un des plus vieux manufacturiers de l'Hexagone. Dans ses ateliers, depuis 1820, on fabrique de façon artisanale les plus beaux fusils de chasse et parmi les meilleurs canons du monde. Aujourd'hui, c'est Pierre Vernet-Caron qui dirige l'entreprise familiale. Chez les Vernet-Caron, on est faiseur de fusils de père en fils depuis 7 générations.
Je suis à Saint-Étienne, je suis dans le temple des armureries françaises Vernet-Caron. Jean, j'ai eu le privilège de visiter l'atelier.
Oui, on a pu voir donc les différents lieux de notre entreprise, donc avec la partie de l'atelier Vernet-Caron, donc qui fabrique les armes sur mesure, les machines conventionnelles, les machines à commande numérique qui nous permettent de fabriquer des pièces des armes en série, la partie canonnerie, l'assemblage des canons avant le passage au four, voilà différents éléments de notre entreprise. Qui vous ont permis de voir qu'on fabriquait bien à Saint-Étienne et qu'on ne faisait pas venir nos armes d'ailleurs.
Elle fait partie de ce qu'il reste de l'époque de l'armurerie à Saint-Étienne. L'entreprise Vernet-Caron assure depuis les années 1830 la fabrication d'armes. Elle a traversé les nombreuses crises du secteur, mais arrive à fabriquer aujourd'hui entre 8000 et 10 000 armes en série par an.
Alors, pas mal, non, Saint-Étienne? Voilà, on a vu du coup un petit florilège de quelques sons trouvés sur internet sur l'usine de Vernet-Caron, une usine qui est située du côté de derrière la cité du design qui fabrique du coup, comme on l'a entendu, des différentes armes, notamment des armes de chasse, mais pas seulement, notamment il contribue à fabriquer et à fournir la police française, mais pas seulement, sur une arme spéciale dont on entend régulièrement parler, qui est le flashball. Cette arme, on a fait un petit montage sur elle et sur son histoire, et voilà. Et je vous préviens, ça va piquer un peu. Il y a des voix pas très agréables, il y a la voix de Sarkozy, la voix de Vernet-Caron, bref, c'est pas très simple, mais on se réconciliera après. Allez.
Pour les policiers de proximité, qui se trouvent en proximité dans des cités difficiles et dangereuses, l'autorisation vous sera donnée d'emporter dans vos véhicules les flashballs.
Paris. Les hommes de la BAC s'apprêtent à partir en mission. L'équipe du commandant Alain Schirmer vient s'équiper.
Le matos.
À leur disposition, tout un arsenal.
On va se préparer. On a nos lampes, les radios, les jumelles. À l'intérieur de ce sac, on peut vous montrer, il y a l'équipement de maintien de l'ordre. Le casque, les jambières, les coudières. Et le bâton de défense, qui est le tonfa, vous connaissez. Le flashball, tir de deux cartouches, qui sont des balles en caoutchouc.
Après les classiques, voici la nouveauté gardée dans une armoire sécurisée.
Alors, voilà, en fait c'est un pistolet électrique qui va envoyer une décharge électrique.
Le flashball. Jusque-là réservé aux unités spéciales comme le GIGN ou le RAID. C'est désormais toute la police qui va devoir se familiariser avec ce pistolet bien particulier. Malgré un nom très anglo-saxon, le flashball est pourtant une arme made in France. C'est à Saint-Étienne, capitale française des armes, qu'elle est fabriquée. Chez Vernet-Caron, l'un des plus vieux manufacturiers de l'Hexagone. Dans ses ateliers, depuis 1820, on fabrique de façon artisanale les plus beaux fusils de chasse et parmi les meilleurs canons du monde. Cette année, la maison fête ses 190 ans d'existence. Aujourd'hui, c'est Pierre Vernet-Caron qui dirige l'entreprise familiale. Chez les Vernet-Caron, on est faiseur de fusils de père en fils depuis 7 générations.
C'est quasiment un fusil de chasse au départ.
Ah, c'était au départ un fusil de chasse. Hein. La conception même est venue de M. Richer, qui est venu nous trouver dans les années 86-87.
À l'époque, Pierre Richer est expert en balistique.
Il passait son temps à envoyer des braves gens en prison, qui avaient tiré sur le voleur qui est en train de lui piquer sa bagnole dans son jardin, où j'en passais des meilleurs, qui en avaient ras-le-bol et qui finissaient par prendre leur arme de chasse, une carabine qu'ils avaient dans un placard, et tirer sur la personne qui était en train de les voler. Donc il a eu l'idée de faire une arme non létale, quoi. Hein.
Non létale, autrement dit, qui ne tue pas. Une arme capable de neutraliser un agresseur. Au départ, le flashball ne s'adresse qu'au grand public.
Voilà le premier flashball sorti en matériaux composites pour qu'il soit d'un coût abordable pour le grand public. Mais les gens, les utilisateurs disaient avec mon truc jaune, là, je ne vais pas faire peur à grand monde. Ça fait pas très arme, ça fait trop jouer.
Qu'à cela ne tienne, le fabricant s'adapte.
Voilà la deuxième version en noir. Avec son emballage qu'on avait essayé un peu vendeur à l'époque pour mettre dans les vitrines des armuriers.
Pour que les ventes décollent, il va falloir attendre un petit coup de pouce de clients un peu particuliers.
Il y a des commissariats, des policiers de base qui ont commencé à acquérir ça. Petit à petit, on est arrivé à convaincre des forces de police que ce sera un produit intéressant pour eux. Donc on a développé un nouveau flashball avec un cahier des charges précis avec eux.
Visuellement beaucoup plus agressif, voici le Flashball Super Pro, une arme réservée uniquement à la police.
Fabriqué, c'est un fusil là, avec des canons en acier, une poignée en aluminium.
Une arme pratique donc, mais surtout à en croire son fabricant, une arme inoffensive. Chaque année, ce sont près de 1500 Flashball Super Pro qui sortent de la manufacture stéphanoise. Une arme qui n'est pas uniquement destiné au marché français. Lors de ces tests, nous avons voulu comparer le flashball grand public avec celui de la police. Premier essai, avec l'arme en plastique vendue en armurerie. Distance du tir, 10 mètres.
Là, on voit bien de combien c'est écraser la balle avant de pénétrer.
Enfin là, ça s'enfonce quand même énormément. Oui. Elle est quasiment... Si on prend ça dans la peau, ça fait mal, non?
Ça fait un beau bleu, oui. Donc là, maintenant, on va faire le tir d'une munition de la police.
Avec l'arme de la police,
c'est
quoi la différence avec l'arme?
La différence, c'est les munitions.
C'est juste la
La cartouche propulsive qui développe une pression beaucoup moins forte pour le grand public que pour la police. Voilà.
En réalité, la cartouche de la police est deux fois plus puissante. 180 joules, soit l'équivalent d'un Magnum 38 spécial.
Impressionnant.
Là, on a le coup de poing de Mike Tyson. Là.
Sa mise en circulation en 2002, pour les policiers, c'est une aubaine. C'est pour eux un moyen d'intervenir sans risquer de tuer ou de blesser grièvement.
Ça nous permet à nous de mieux nous sentir et de pouvoir intervenir, je veux dire, un petit peu plus, avec un petit peu plus de sincérité et de sérénité, surtout sur des affaires.
Ça nous apporte de pouvoir parfois régler des situations sans faire appel à un armement qui pourrait avoir des conséquences très graves.
Voilà pour la théorie. Car depuis sa mise en circulation, plusieurs affaires ont montré les limites de cette arme.
Et oui, voilà, c'était il y a 14 ans la mise en service l'armement de la police par avec les flashballs. Et en 14 ans, effectivement, les blessures graves faites par cette arme ne se comptent plus, que ce soit des tirs au niveau du visage ou au niveau des parties génitales ou autres. Et du coup, suite à un enchaînement, une suite de ce genre de blessures, la le ministère de l'Intérieur a décidé, avait décidé il y a quelques temps d'interdire l'utilisation du flashball au niveau de ses parties, c'est-à-dire au-dessus des épaules et au niveau des parties génitales. Sauf que dans ce reportage, on assiste à une formation de policiers de la BAC du département du Rhône, et vous allez voir comment ça se passe, tant au niveau de la fiabilité de l'arme, de la précision, mais aussi de la formation. Je tiens à préciser que du coup les sons, une partie des sons qui ont été montés, c'est des sons trouvés sur un reportage fait sur cette arme. Et on n'a pas rajouté la musique anxiogène qu'il y a derrière, c'est la musique du reportage. Voilà. On va passer le son de cette formation, et vous allez pouvoir apprécier l'habileté et la précision de cette arme. Cette arme. Allez hop, c'est parti.
Décidé de renforcer la formation.
Allez, on se rééquipe.
Depuis 2009, les policiers doivent faire valider leur habilitation chaque année. Une formation qui ne dure qu'une journée.
C'est OK, lunettes, casque.
Nous avons pu assister à l'une d'entre elles, celle de policiers de la BAC du Rhône. Ça commence par le BABA, vérifier le bon fonctionnement de l'arme. Ce jour-là, deux d'entre eux découvrent le flashball. Parmi eux, Denis.
Vous avez déjà manipulé un flashball, oui ?
Je suis en formation, je suis en cours d'habilitation, donc
c'est la première fois. Vous l'avez jamais utilisé sur le terrain ?
Négatif, c'est la première fois que je l'utilise. J'actionne la sûreté. Et là, je suis prêt à faire feu.
C'est bon ? Allez, vous mettez à 25 mètres. Donc pour tous les tireurs, vous partez avec deux cartouches vides, deux vides, trois pleines. Allez, go !
Suivent différentes mises en situation sur cible fixe. Pour Denis le novice, l'arme s'avère plus compliquée à manier que prévu.
D'abord en haut la bonne, ouais. Ok, très bien la fermeture. On attend. Allez, go ! À 10 mètres, on s'applique, on vise.
Premier tir à 10 mètres, raté.
Allez, attention, top !
Ceux qui ont déjà suivi une formation sont plus à l'aise dans la gestuelle et dans le rechargement de l'arme.
Ok, c'est bon.
Reste la précision. La balle a atteint le visage, mais le formateur valide tout de même le tir.
Qu'est-ce que ça donne ?
Eh ben là, c'est correct. Hein. Donc là, vous avez un tir à 10 mètres. Vous avez deux tirs qui sont dans les silhouettes. Donc ça correspond à un tir efficace.
Le tir là est au niveau du visage.
Oui. Le tir qui pourrait se produire au niveau du visage ou de la tête peut malheureusement arriver sur la voie publique. Vous tirez un moment à un autre sur un individu, cet individu est en train de bouger parce qu'il fait un mouvement de jet de projectile ou autre, le tir peut atteindre le visage ou la tête.
C'est pas quelque chose que vous essayez justement de leur apprendre, c'est de...
Bien sûr, mais par contre on peut pas demander aux individus qui nous jettent des pierres, des bouteilles, des cocktails de rester debout et de pas bouger. Ça malheureusement c'est pas possible. Hein. Donc.
Pourtant, la cible était fixe. Le problème du flashball, c'est donc son imprécision. Vous allez comprendre pourquoi. Retour à Saint-Étienne, chez le fabricant du flashball.
Attention les oreilles.
Lors de notre visite à l'usine, nous avions assisté à des tirs sur cible.
On reconnaît plus nos impacts, mais bon.
Vous visiez le centre ?
Oui.
Il faut savoir que la précision demandée, elle est de 60 cm pour prendre à 15 mètres. Donc là, on est correct.
Il faut espérer qu'un policier soit un peu plus précis, quoi.
Donc, déjà, ils ont l'habitude de tirer, ils s'entraînent, et en plus, ils savent bien où portent leurs balles.
Allez, go !
Une arme peu précise et restrictions budgétaires obligent.
Ouais, c'est bien.
Une formation avec très peu de munitions tirées. 10 mètres. Beaucoup de cartouches vides. Et seulement 3 balles réelles pour ceux qui ont déjà manipulé le flashball, 7 pour ceux qui le découvrent. le formateur, c'est largement suffisant. Malgré des débuts difficiles, Denis pense désormais maîtriser l'arme.
Oui, je suis content.
Pourquoi ?
Bah, je suis content parce que bon, on arrive au terme de la formation et puis bon, on peut voir quand même le résultat et plus, enfin, pas trop mal quand même parce qu'il est quand même au milieu de la bouteille, à l'endroit là, normalement où on doit à peu près viser quoi.
Les deux personnes qui n'ont jamais tiré, elles ont s'habiliter ou pas ?
Là, on regarde ce que j'ai vu pour l'instant, oui, tout à fait, oui.
Et oui, voilà, Denis a été habilité et on a bien peur de le croiser dans les rues d'une quelconque ville du Rhône. Bref, ce son, il est assez éloquent parce qu'il montre clairement ben, l'imprécision de l'arme sous 100 cm et sachant qu'il est normalement, en tout cas, recommandé et interdit de tirer au-dessus des épaules et de la partie génitale. C'est-à-dire qu'en fait, un tir au niveau du ventre peut très bien atterrir dans la tête. Mais de toute façon, le tir dans la tête ne pose apparemment pas de problème à l'inspecteur. De plus, ben, les événements, les cas se multiplient de témoignages et de personnes blessées, notamment mutilées au niveau du visage. Très clairement le flic avait visé au niveau du visage les personnes touchées et du coup que ce soit dans les différentes situations et ben à chaque fois et ben c'est très compliqué de savoir qui a tiré et dans ces cas-là et ben une longue procédure commence pour ceux qui décident de faire appel à la justice. Et cette procédure, ben, comme c'est le cas pour la personne de Nantes, un lycéen qui avait été touché lors d'une manif, une personne qui avait été touchée lors d'une manif lycéenne, et ben ça a montré que en fait la personne qui avait visé et touché le visage, et ben n'était même pas habilitée pour porter l'arme. Bref. Comme à chaque fois dans les histoires de violences policières, la justice choisit son camp et il est bien évident qu'elle est du côté de la police. On va parler de ça et de ce qui se passe au niveau des personnes blessées par la police et entre-temps, on va commencer à passer un petit morceau. Alors on voulait passer pas mal de morceaux mais il y a plein de morceaux qui parlent de la police, alors du coup on va commencer par un petit medley et après on enchaîne sur Secret Police du groupe No Hope for the Kids. Allez, c'est parti.
That's the sound of the beast. That's the sound of the police.
When I'm
for any defense, God would beat you to the basement.
Et voilà, c'était No Hope for the Kids. Voilà, avant cette petite pause musicale, on a parlé de des personnes mutilées par les tirs de flashball, notamment lors de manifestations, mais bon, les tirs de flashball ne se lient pas aux manifestations, hein, ils sont largement employés, que ce soit dans les quartiers ou pour notamment par exemple à Calais également. On a aussi largement parlé il y a quelques temps, vous avez certainement entendu passer, vu passer les infos et des textes sur les grenades d'anti-encerclement qui ont mutilé de nombreuses personnes et qui ont tué Rémi Freys à Sivens. En fait, les violences policières, elles ne concernent pas seulement des personnes en situation de manifestation, etc., contrairement à l'importance médiatique que cela peut prendre. On le voit en ce moment avec les manifestations. La répression policière et la violence fait partie des stratégies de chaque gouvernement lors de manifestations, notamment de lycéens. C'est-à-dire que dans les premières manifestations, l'ordre est donné de taper fort pour impressionner, pour décourager et pour aussi essayer de faire mal et faire peur les personnes qui ont en fait très peu ou très peu d'expérience de manif et de présence dans la rue en fait. Par exemple, en ce moment on parle beaucoup des violences, notamment sur ce lycéen de Bergson qui a été frappé et dont la vidéo a été tournée sur les réseaux sociaux et sur internet, mais en fait les violences policières, des coups de flics, ça se déroule pas seulement lors de manifestations, mais dans bien d'autres situations, et celle-là on entend beaucoup moins parler. Par exemple, un rapport il y a quelques années indiquait que en moyenne par jour le taser était utilisé 3 fois. C'est-à-dire qu'en fait de nombreuses situations, des armes qui peuvent blesser, tuer, mutiler sont utilisées et de plus en plus souvent, et c'est pas avec l'état d'urgence qui arrive que ça va changer. Au contraire, l'impunité policière est de plus en plus forte. Et maintenant, elle va être constitutionnalisée. Et on reviendra dessus un peu plus tard. En tout cas, là, on va passer un petit extrait d'une prise de parole lors d'une manifestation sur Paris contre les violences policières. Une manifestation contre les violences et les crimes policiers, et du coup on va passer un petit son et après on va lire un tract qui a été diffusé à ce moment-là, et on reviendra ensuite après sur ce son. Voilà.
On est réunis ici dans le cadre d'une journée internationale contre les violences policières. Ça nous a semblé d'autant plus important de la tenir alors que commence un mouvement dans la rue et donc sa logique répression policière comme hier à Tolbiac, et d'autant plus important alors que le gouvernement, sous couvert d'antiterrorisme, essaye de créer un état d'urgence qui renforce encore l'impunité de la police. Tous les derniers procès dans ces derniers mois depuis l'état d'urgence, il y a déjà eu deux non-lieux dans les affaires d'Amadou Koumé, qui était mort d'un étranglement en 2015 dans un fourgon de police, ou Toussine Bourras, qui est mort d'une balle dans la tête alors qu'il était menotté dans un fourgon de police en 2015. Après six ans de procédure judiciaire, la Cour de cassation a même prononcé un non-lieu définitif dans l'affaire d'Ali Ziri, un vieux monsieur retrouvé mort suite à son interpellation à Argenteuil en 2009. Bref, le gouvernement essaye d'étendre le permis de tuer alors qu'il existe déjà, ce que nous a encore rappelé le procès du flic qui a tué Amine Bentoussi d'une balle dans le dos. Et voilà, aujourd'hui, ils veulent même armer les BACU avec des armes de guerre. Pourtant, quiconque a déjà eu affaire à la BAC, c'est que c'est folie furieuse de leur donner des fusils d'assaut.
Voilà, donc pour organiser cette manifestation, on s'est réunis en intercollectif. On a un certain nombre de collectifs qui se sont réunis suite et qui se sont rencontrés lors du mouvement qui a suivi l'assassinat de Rémi Fraisse, donc à la ZAD du Testé, et qui ont commencé à se réunir depuis le mois de juillet plus ou moins dernier, afin justement de coordonner nos diverses actions dans cet intercollectif. Il y a aussi bien des familles de victimes, des blessés, des mutilés par la police, que différents collectifs politiques qui luttent contre les violences policières et d'autres violences. Ce qui nous réunit tous, en fait, c'est principalement qu'on se base autour de la question des violences d'État dans leur ensemble, qu'on considère comme une logique qui nous gouverne au quotidien et qui se manifeste sur le terrain aussi, notamment, principalement, par l'assassinat, la mutilation, les humiliations que fait subir la police à la population. Donc, pour nous, on ne pourra pas vous dire que, en fait, on se bat contre cette logique-là, cette logique globale qui nous gouverne au quotidien et notamment aussi contre la criminalisation des mouvements sociaux et de toutes les personnes qui cherchent à se battre contre cet ordre-là. Notamment, donc, on doit vous informer que, au moment où on vous parle, il y a des gens qui passent en comparution immédiate pour avoir participé aux différentes mobilisations qui se passent ces deux derniers jours autour de la question de la loi Macron aussi, et qui subissent des violences policières, El Khomri, et qui subissent des violences policières qu'on a subies et qui en témoigneront sûrement. Donc, pendant cette manifestation, si on a des informations, d'ailleurs, on fera des annonces au camion.
Voilà, c'était du coup de la manif du 19 mars à Paris sur les violences policières, et donc on voit là que des ponts essaient de se créer entre les personnes victimes de violences lors de mouvements sociaux, mais aussi par les proches et des personnes assassinées par la police lors d'interpellations. Du coup, je vais lire un tract qui a été diffusé et qui a appelé à cette manifestation. Et qui s'appelle « Non à la légalisation du permis de tuer ». Donc voilà, je vais juste lire quelques extraits. « Police partout, justice nulle part. Le 15 janvier 2016, Damien Sabougian, le policier qui a tué d'une balle dans le dos Amine Bentoussi, est relaxé. Dans la continuité de sa politique répressive, ce verdict appuie la volonté du gouvernement de légaliser le permis de tuer pour les policiers. À défaut de créer la présomption de légitime défense, historiquement réclamée par l'extrême droite et les syndicats de police, le projet de loi dit de simplification de la procédure pénale introduit l'état de nécessité qui autorise un policier à tirer sur une personne présumée dangereuse même s'il n'est pas directement menacé. Ce projet renforce les pouvoirs de la police au détriment de la justice, et pendant l'état d'urgence, le port d'armes en dehors du service est même autorisé pour les policiers. Le terme « bavure » entre guillemets pour désigner les crimes policiers alimente l'idée que ceci ne serait qu'accidentel, exceptionnel. Ils sont au contraire le résultat des politiques racistes et sécuritaires menées par les gouvernements successifs. Le constat est clair. Impunité pour les policiers et augmentation des violences policières et carcérales. La condamnation des salariés de Goodyear et la criminalisation de l'ensemble du mouvement social montrent que toute forme de résistance sera durement réprimée. L'augmentation des assignations à résidence, des peines pour outrage et rébellion, et des réquisitions ou encore la menace de déchéance de la nationalité indiquent clairement le tournant répressif dans lequel le pouvoir engage la société. Plus que jamais, notre mobilisation est nécessaire pour lutter contre le permis de contrôler, d'humilier, de mutiler et de tuer. De Hayat Zinapa à Ferguson, en passant par Paris, un même combat est mené. Nous luttons contre les violences policières qui sont l'expression d'une logique d'État. Elle cible en priorité les catégories marginalisées par le pouvoir parce que considérées comme inférieures, dérangeantes, les habitants des quartiers pauvres, les jeunes, les précaires et les personnes issues de différentes migrations. Non à toutes les formes de violences policières, non aux expulsions et mises à la rue, non à la chasse aux migrants, non aux humiliations quotidiennes et des contrôles aux faciès, non à la répression des luttes. Nous ne nous laissons pas gouverner par la peur face à l'État policier, légitime défiance. Ici et ailleurs, hier et demain, la solidarité est notre arme. Voilà, donc ça c'était un des tracts diffusés et qui a appelé à la manif. Voilà, il fait le pont aussi du coup sur les violences policières, sur d'autres formes de violences policières, qui sont du coup peut-être moins spectaculaires que ben, tir de flashball, mais qui sont qui peuvent être ben des contrôles dans la rue, les contrôles aux frontières, les violences quotidiennes à Calais et à Ventimille ou à toute ou autour de la Méditerranée et ailleurs. Et voilà. Et aussi à toutes les formes de violence qui sont légitimées par le pouvoir en fait. Et là en fait, je vais passer un petit montage d'un son. Alors c'est un vieux son qui date de quelques temps. C'est un extrait, c'est un montage mis en musique d'une émission de France 2, enfin Antenne 2 à l'époque. Qui date de 1980. En fait, c'est suite à la mort de Abdelkader, qui avait été tué à Vitry à l'âge de 15 ans, tué d'une balle en pleine tête par le gardien d'un immeuble. En fait, il s'était passé des choses sur Vitry et que du coup un gars, Mustapha, est invité à sur le plateau. Et du coup, ben, on va passer ce son parce qu'il dit beaucoup de choses sur comment les médias, etc. Et ben, elle parle de la jeunesse et du coup, elle exprime une certaine violence. Et aussi, après, il y a un extrait d'un film fait par justement des jeunes de Vitry à l'époque, qui parle de la politique. Voilà, on va passer ce petit montage et après on reviendra dessus vite fait. MSP Pro.
Ouais, mais d'accord, mais là, il vient, bon, lui, il est pas de la cité, bon, c'est pareil, bon, l'éducateur, mais c'est les jeunes qui doivent parler. Sinon, on parle, c'est nous qu'on expose notre problème. C'est pas toujours, la plupart du temps, à chaque fois qu'il y a une émission qui passe sur les jeunes, il faut toujours un psychologue, machin, toujours des mecs qui connaissent rien de la jeunesse, ils vivent même pas dedans. C'est toujours des mecs qui sont en dehors, qui ont rien à voir. Voilà, je suis psychologue, je suis ça, je m'occupe des jeunes, je suis éducateur, je suis ça.
Non, parce qu'il y a quelque chose qui est importante, c'est que cette motivation des adultes qui essayent de vous comprendre, le fait que vous soyez là, d'ailleurs, c'est une preuve supplémentaire. Je veux dire qu'il ne faut pas que vous adoptiez systématiquement une attitude de provocation ou de refus des adultes. Non, je dis comme ça. Parce que c'est facile de dire c'est la faute aux autres, c'est la faute, etc., etc. Le problème, c'est que nous vivions tous dans une société, que vous en acceptiez ou refusiez les règles, c'est votre problème. Je veux dire, nous sommes à la limite, entre guillemets, condamnés à vivre ensemble.
Ouais, mais on vit ensemble. Mais toi seulement, toi où tu vis? Est-ce que tu travailles la pioche? Non.
Mais c'est parce que je travaille pas la pioche, je vais
plus tard. On vit pas ensemble pour l'instant, moi tu vis pas à Cousy, tu vis pas dans les ghettos de la misère.
Mais je vis dans le même pays.
D'accord, dans le même pays, mais ça veut rien dire, même pays. C'est dans quelle classe tu vis toi?
Les différences de classe existent dans tous les pays.
Je le sais pourquoi Giscard il est en Inde, il veut faire pareil. Les castes là, toujours que les fils d'ouvriers sont toujours ouvriers. Les fils de riches, toujours riches.
Ouais, mais attends, là t'oublies un truc aussi, d'accord, la gauche, ouais, mais qu'est-ce qu'ils demandent? Ils demandent un commissariat et des isolotiers, comme si il n'y avait que cette solution. Le commissariat et les isolotiers.
On est combien d'habitants?
On est d'accord, on est 90 000 habitants. Mais c'est pas rien que le commissariat qui va arranger les trucs. Et d'abord, ça veut dire quoi? Ils se disent, les communistes, ils se disent contre les lois anti-immigrés. Mais du fait de mettre un commissariat et des isolotiers, qu'est-ce que ça va faire, franchement? Ça va faire plus d'expulsions.
Il y a des commissariats dans d'autres quartiers, ouais, à Paris, dans le 7e, dans le 16e, ouais. Il y a des commissariats et des sous-étiers aussi.
Si c'est pas toi qui va fleurir mes registres, tu te ramasses des coups de matraque et tout, et puis au dépôt, des bâtons dans le cul, c'est pas toi qui te ramasses ça. C'est nous qu'on se ramasse ça. C'est nous qu'on se fait écraser, qu'on se fait jeter dans les poubelles. Le commissariat, ça, tu le sais pas, ça.
J'ai été ramassé par la police.
Bien sûr. Je me suis déjà battu avec eux. Après, quand ils disent, je me suis battu avec eux, ils disent, c'est moi qui a commencé encore. Là, normalement, je devais passer au tribunal aujourd'hui, alors. Tu vois? Alors c'est toujours nous, c'est nous et toi. Ils veulent pas comprendre, voilà, t'es un jeune, casse-nous pas les pompes, comme ça ils disent.
Comme
c'est normal.
Ben, moi, je crois que c'est pas normal. Hein. Pourquoi on devrait avoir les mêmes chances hein. Ça.
C'est à cause de quoi, là,
c'est... C'est à cause du gouvernement. C'est, ils disent un gouvernement démocratique, c'est presque un gouvernement capitaliste. C'est drôle, c'est pourri. Alors, remarque, communiste, c'est la même chose. Hein. Même si un gouvernement communiste, ça change rien. Hein. De toute façon, tout ça, c'est de la démagogie.
Hein. Oui, ah, bon, c'est PCF.
Ouais, tout ça, tout ce que vous voulez, là. Socialistes, tout ça, c'est... ils se font des guerres entre eux, mais eux, ils s'en foutent. Mitterrand, marché, eux, ils sont assis sur une chaise, ils ont leur paye et tout. Ils en ont rien à foutre que la gauche, elle passe ou qu'elle passe pas. Eux, ils sont payés, eux. Ils ont leurs vacances et tout, ils ont leur retraite assurée. Par contre, ceux qui votent communiste, c'est le roi des cons. Ils sont roulés.
Mais c'est bon dans les travailleurs.
Ouais, c'est des travailleurs, moi, mais ils votent parce qu'il n'y a rien à faire. Ils veulent pas voter de la droite. Alors ils votent de la gauche. Ils ont rien à faire, ils sont sans issue, on est bouchés, on est...
Je vois pas qu'il y a une autre solution.
On est exploité. On est exploité, on est conditionné, comme tous les trucs de publicité, etc. Pas mal de trucs. Hein ? Toi, comme toi, tu es conditionné, tu es exploité sans t'en rendre compte. Hein.
L'histoire lors du procès de l'assassin de Abdelkader, il a été condamné à 5 ans avec sursis au tribunal de Créteil. Suite à ça, il y a eu une petite émeute devant le tribunal et puis ça a été un des événements forts de l'histoire d'un mouvement qui s'appelait Rock Against Police. Qui était un mouvement auto-organisé principalement dans les banlieues et les cités de transit de la région parisienne, lyonnaise et marseillaise. Ce mouvement, à travers des concerts, des concerts gratuits dans les cités, à travers des journaux, à travers d'affiches, s'est mobilisé contre les violences policières. Et par exemple à Vitry, ça a pris la forme d'une occupation d'un local qui appartenait au PCF, qui a été appelé le centre Abdelkader, qui a servi de lieu de coordination intercité et aussi de réflexion juridique et politique. Bref, cette histoire de Rock Against Police, on espère qu'on pourra en parler dans les prochains mois, parce qu'elle est assez chouette et elle est porteur d'espoir dans l'idée de prise en main de la lutte et d'élargissement à la violence policière, mais aussi à la violence policière dans le cadre de, qui a un objectif, c'est-à-dire du contrôle d'une société inégalitaire. Voilà, ça c'est un truc qui est aussi pas mal expliqué dans une chanson de La Rumeur qui s'appelle La meilleure des polices, et on va la passer parce que dans cette chanson, ils disent pas mal de choses sur les armes de la police et sur les violences qui sont pas forcément issues des flashballs de Saint-Etienne, en tout cas pas seulement. Voilà, allez, c'est parti. Avant, on va passer un petit sample, un petit extrait de film. Allez, ciao.
Pauvre crétin. Mais tu vas faire quoi, hein? On a ratissé tout l'endroit, tu n'as rien, rien à part tes poignards ridicules et tes prises de karaté minables contre nos flingues.
Non, vous avez des balles et l'espoir que je sois à terre quand vos armes seront vides. Parce que dans le cas contraire, vous mourrez avant d'avoir pu recharger.
Des polices ne portent pas l'uniforme. Double, triple, trouble, incolore, informe. Elle s'immisce en tout, se mêle de tout, se ressent partout, centrale, sans bruit, sans rien d'écrit, sans aucun parfum, de la moindre gâchette, parfois même avec des talents de poète. La meilleure des polices demeure inégalable. Dans l'art de tous nous mettre à table, tous en place, tous remis en cage, doux, sage, sans effusion ni rage, aucun usage, d'aucune trique, d'aucun bracelet à serrure métallique. La meilleure des polices n'extorque pas de renseignements, elle ne gâche pas son temps, des heures durant au fond d'un poste puant à faire couler le sang du dernier schlag échoué en cellule de dégrisement. La meilleure des polices chasse sur les terres, du paradis sur terre, qu'elle vend clé en main, où on connaît le moyen de procurer l'envie de rien, la peur de tout, l'effroi de la joie, l'angoisse du chagrin. La meilleure des polices, c'est tout ce qu'on te prend, tout ce qu'on te laisse, tout ce qu'on tue en toi, tout ce qu'on te mâche, tout ce qu'on crache, tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. Tout ce que tu bectes pour garder le goût de moisir à crédit dans un putain de trou. La meilleure des polices, c'est ton taf, ta télé, tes crédits, tes anxiolytiques, neuroleptiques, antidépresseurs. Et tout ce que tu prends pour pleurer moins fort la nuit. Tout ce que tu payes. La meilleure des polices, c'est tes sourires forcés. C'est tes retenues sur salaire et le découvert avant la fin de la semaine. C'est la peur de faire un pas, puis deux, puis trois. Parce qu'enfant, on t'a dit que t'étais une merde et que t'as fini par le croire. La meilleure des polices, c'est tout ce qui te fait marcher droit, avec ton propre consentement. Sans jamais oser montrer les crocs, quand bien même on te propose de t'enculer. Tu bêtes pour garder le goût. La meilleure des polices, c'est quand les pauvres savent rester à leur place, sans besoin de les matraquer, de leur coudre la mâchoire, ce que tu veux les mettre au cachot. La meilleure des polices, c'est ce qu'on apprend de mieux, du berceau au tombeau.
Courage et courage. La joie est un sentiment de plaisir, de bonheur intense, caractérisé par sa plénitude et sa durabilité, et éprouvé par quelqu'un dont une aspiration, un désir est satisfait ou en voie de l'être. Joie, rage et courage. Le courage, c'est la force de caractère qui permet d'affronter le danger, la souffrance, les revers et les circonstances difficiles. Joie, rage et courage. La rage, c'est le besoin ou le désir irrépressible de quelque chose.
Et voilà, ça se termine pour joie, rage et courage. On se retrouve le mois prochain. En attendant, eh ben, n'ayez pas peur des armes de la police. Sortez dans la rue. N'ayez pas peur des services d'ordre des syndicats qui font bien souvent le travail de la police comme la semaine dernière à Paris. N'ayez pas peur de ce monde de merde. Soyons prêts à l'affronter avec joie, rage et courage. On se donne rendez-vous donc le dernier lundi de avril. On parlera d'un autre sujet. En attendant, n'hésitez pas à aller sur le site joie-rage-et-courage.noblog.org. Vous y trouverez les émissions écoutées, les sources, les playlists et bien d'autres choses. Vous pouvez nous contacter par mail sur l'adresse clap@riseup.net. Vous pourrez nous envoyer plein de mails d'insultes et d'amour. Et aussi des idées, des infos et voilà. Et donc voilà, avant de finir, un petit joie, rage et courage à tous ceux qui luttent. À tous ceux qui lâchent pas l'affaire. Et qui qui baisse pas la tête et ne se résigne pas. Un gros salut à la personne qui m'a envoyé les fichiers que j'avais oublié de prendre avec moi. Et à tous les potes qui doivent faire face à des trucs pas cool. Voilà.